Je suis tout à fait
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Merci d'avoir fait confiance à nos programmes. Vous êtes plus de 5000 à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Nous vous proposons ces nouveaux numéros autour du budget 2022 qui a été déposé au Parlement par le Premier ministre Sama Lukonde. Selon certains observateurs, ce budget n'est toujours pas réaliste en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, car de grandes innovations de cette loi des finances portent plutôt sur l'augmentation des crédits alloués aux institutions. La présidence a 254,6 millions contre 159,8 en 2021. Les salaires moyens des députés plafonnent donc 10 000 et celui des sénateurs 13 000 par mois, tandis que le salaire moyen d'un agent de santé est fixé à 475 $ et celui d'un enseignant à 118 $ par mois. De son côté, le gouvernement avait annoncé la réduction du train de vie des institutions. Alors, comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 6330 ou encore les 081 890 4969. Et vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net. Sylvain Matundu et Jocelyne Mukendi concourent à la production de cette émission réalisée et coordonnée, présentée par J.R. Lungembo Luabung. Angie, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Maître Edmond qui est avec nous. Maître Edmond, vous êtes avec nous, bonjour.
Allô?
Oui, Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Bonjour, la radio Capi, je suis en ligne.
Alors, le projet du budget a été déposé au Parlement. Quel est votre commentaire?
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je pense que nous sommes informés de ce projet de budget qui sera discuté pendant cette session du mois de septembre. Moi, je pense que, comme beaucoup d'observateurs le pensent également, c'est un budget qui ne vient pas résoudre le problème de la société, donc la situation socio-économique, parce que, comme vous pouvez le dire, des institutions d'agence, la primature, le ministère, le Parlement est consort. Et lorsque, par exemple, on prévoit un salaire de 118 $, plus de 230 000 pour un enseignant et 445 $ pour un personnel de santé, je pense que c'est vraiment c'est manquer de la population, c'est manquer du personnel enseignant ou de tous les agents publics de l'État. Je pense que c'est un budget qui doit être profondément discuté, revu, par les parlementaires, en fait, que la vie de la société, la vie socio-économique soit quand même privilégiée par rapport à la vie de personnes qui travaillent dans les bureaux climatisés et peut-être qui ne font pas grande chose par rapport à ceux qui forment les gens, les enseignants, par rapport à ceux qui protègent l'intégrité territoriale, par rapport à la police et ceux que d'autres personnes publiques de l'État.
Alors, comment expliquer qu'il y a quelque temps, le gouvernement avait annoncé la réduction des trains de vie et qu'aujourd'hui, le même gouvernement aille déposer un budget qui, au fait, règle plutôt en termes de la majoration de la part allouée qu'aux institutions? Est-ce que ce n'est pas dire une chose et son contraire à la fois? Et que c'était juste un fait d'annonce?
Oui, exactement, c'est dire une chose et son contraire, parce que lorsque ce gouvernement semble qu'on a été inversé, le gouvernement des guerriers, comme on le disait, des warriors, des guerriers, et ce gouvernement, pour être inversé, il aura fallu toutes les démagogies possibles pour attirer les représentants du peuple, en fait, que ce gouvernement soit inversé. Et maintenant, dans la pratique, le gouvernement affiche ce qui est plus grave, ce qui n'a jamais été fait dans le gouvernement passé. Et lorsque le gouvernement avait promis qu'on doit réduire les traits de vie des institutions de l'État et privilégier la base, la population, et ce que nous vivons, c'est le contraire. Donc le gouvernement vient encore en 2022, je pense que c'est la population qui va encore s'appauvrir, la population qui va encore en souffrir, est-ce que le ministre, le député seront, ils vont vivre dans l'élite, dans l'opulence, coupables. Voilà. Je pense que c'est vraiment une chose que nous pouvons que déplorer, que c'est vraiment regrettable. Si un tel budget sera adopté, si le parlementaire ne sait pas de réduire le trait de vie des institutions, je pense que la pauvreté va encore s'alourdir dans ces pays. Ça sera pas une bonne chose.
Peut-on espérer que l'autorité budgétaire pourrait éviter à ce que ce budget, un tel budget, soit adopté en des termes tels qu'on a été élaboré?
Exactement. Je pense que, comme on l'a dit, c'est un projet qui peut ou ne pas être adopté. Et nous invitons nos députés, nos sénateurs, qui nous suivent d'ailleurs, à pouvoir privilégier la population, parce que c'est la population qui les a délégués au niveau du Parlement. Et toutes les lois qui doivent être votées doivent imprimer l'aspiration même de la population. Voilà pourquoi nous invitons les honorables parlementaires à pouvoir, si pas rejeter, mais à pouvoir bien analyser ces projets de budget et pouvoir changer les termes qui sont proposés par le gouvernement, par le Premier ministre, afin de pouvoir privilégier la population qui en souffre, la population qui vit dans la misère, la population qui vit dans des conditions macabres, médiocres, au détriment de ceux qui gèrent les grandes institutions du pays.
Merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir appelé. Alors, on va prendre Amos. Amos, vous êtes à Bukavu. Comment réagissez-vous, Amos?
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité.
Oui, quelle est votre contribution, Amos?
Comme je ne cesse de le dire, le peuple congolais n'a pas de chance. Et je le dis pourquoi? Parce que j'ai fini par comprendre que tous les hommes politiques congolais sont les mêmes. Et ils ne sont sérieux et il faut semblant de mettre le peuple quand ils sont encore en difficulté ou quand ils ne sont pas aux affaires. Mais une fois aux affaires, ils changent complètement et ils deviennent plus pires que leurs prédécesseurs. Pourquoi je le dis hier? Sincèrement, en suivant le projet de budget déposé à l'Assemblée nationale et ce qui a été proposé pour ce qui est de la majoration encore du budget alloué à certaines institutions au détriment du peuple, c'est révoltant. Et c'est là que nous disons, vraiment, on ne sait pas qui sauvera encore ce pays. On décriait les trains de vie de certaines institutions. Mais sans honte ni crainte, on veut encore ajouter leur budget. On vient de majorer leur budget au détriment de tout un peuple qui vit dans une misère de honte. Est-ce que réellement nos dirigeants réfléchissent, peuple? C'est là que je donne raison à ceux qui disent que nous avons toujours été dirigés par des gens qui sont contre le peuple congolais. Et c'est déjà vrai et c'est vérifiable. Moi, je pense que si réellement nos députés ne seraient pas jusque-là des robots manipulés ou téléguidés par ces régimes, ils doivent, non seulement, je ne veux pas dire rejeter ce budget parce que ça va aussi mettre en difficulté tout un pays, mais ils doivent revoir, amender ce budget et réduire sensiblement le train de vie de certaines institutions et songer à tous ces fonctionnaires-là de l'État qui touchent un salaire de honte au salaire des militaires, des policiers, des enseignants qui vont débuter la grève d'ici là. Moi, je pense que nos dirigeants devraient réfléchir deux fois. Au fait, je doute aussi de la capacité de mobilisation de ce budget-là de 10 milliards parce qu'on se souvient encore avant Ilunkamba, on se souvient comment on a réduit le budget qui était prévu de 10 milliards, on l'a réduit encore à 5 milliards pour force de mobilisation des recettes. Et cela s'explique du fait qu'il y a encore la corruption et le détournement qui se font entendre au pays du sommet à la base. Et c'est pourquoi on a toujours connu la problématique de mobilisation des recettes. Mais ce qui intéresserait, c'est qu'on mobilise. Est-ce que c'est partagé d'une manière là responsable pour que tout le monde se sente que réellement il vit dans un pays gouverné? Non. Et c'est telle est la base ou la source de frustration au sein de la population partout au Congo. Parce qu'on sait qu'il y a une bande de gens qui accaparent toutes les richesses du pays au détriment de la population qui souffre. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Moi, je pense que cette fois-ci, nous allons tester nos députés par rapport à ce budget. Et ils doivent savoir que 2023, c'est pour bientôt. Même si le même régime serait en train de vouloir bloquer les élections, mais le peuple les observe et nous disons que ce budget ne peut pas être voté dans de la manière dont il a été déposé parce que c'est une discrimination notoire contre le peuple congolais.
Voilà, alors donc, si je comprends bien pour vous, s'il y a sacrifice, il faudrait que tout le monde puisse le consentir. Il ne faudrait pas une politique de deux poids, deux mesures.
Tout à fait, parce qu'on ne comprend pas hier. Hein? Moi-même, dernièrement, j'ai eu à suivre et c'est vérifié à la source. Qu'on nous dise, le président du Sénat touche combien? Certains gens disent qu'il toucherait plus de 100 000 dollars le mois. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, la présidence, où on cesse même de parler de dépassement budgétaire chaque jour. Au moment où il y a un Congolais incapable de s'acheter même un savon de 200 francs. Non, ça ne peut pas se comprendre ainsi. Nous tous sommes des Congolais. Et chacun a droit de bénéficier des ressources de ce pays. Pourquoi
Parce que nous avons reçu les messages de certains infirmiers qui étaient en grève et qui avaient repris et qui nous ont laissé entendre que le gouvernement leur a promis de se retrouver, en tout cas cette fois-ci, dans le budget 2022.
Mais la réalité est tout autre. Vous voyez qu'ils ont dit les choses sont contraires à la fois. Il y a grève partout. Au sud qui vous, la justice ne fonctionne pas parce qu'il y a grève. Les médecins qui grèvent partout à travers la République. Les enseignants qui annoncent qu'ils ne vont pas rentrer des quatre comme prévu. Mais on est surpris de comprendre que ceux qui touchaient plus, on vient encore d'ajouter pour eux, au détriment de ceux qui ne touchent absolument rien. Moi, je pense que j'essaie de dire qu'avec ce régime, on a quitté la médiocrité et actuellement, on sera en train de vivre la nullité. Et c'est très grave pour le peuple.
Merci beaucoup, Amos. On va prendre Simon Tsiloulou. Simon, vous êtes avec nous à Matadi. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous hier et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. C'est Simon.
Alors, quelle analyse faites-vous par rapport au nouveau le projet du budget déposé au Parlement?
Et contre le slogan du président de la République qu'on appelle le peuple d'abord, il y a un paradoxe grave entre ce que le président prône comme peuple d'abord et les projets de budget présentés par le premier ministre qui gère le pays au quotidien. En fait, à notre humble avis, nous pensons que ce budget, c'est le budget de la dernière année. C'est l'année qu'on appelle l'année virage. L'année virage du mandat du président de la République, lequel mandat est marqué sous l'objectif du peuple d'abord. Donc ça, 2022 ici, c'est la dernière année, parce que 2023, c'est l'année électorale. Et l'année qui va définir ce que doit être le gouvernement, ce qui a été les 5 ans ou le mandat de 5 ans ici, c'est cette année 2022, ou c'est l'année 2022 qui devrait marquer, qui devrait collaborer entre le peuple d'abord et ce que nous devons avoir. Mais le budget ici antisocial et qui cherche la promotion davantage des institutions, moi je pense que le moment ici, ce n'est pas c'est cette façon-là qu'on devrait voir des choses. Voilà pourquoi dans notre pays, tout le monde veut quitter la médecine pour aller en politique. Il veut quitter le corps professeur, un professeur, docteur, tridoc, hexadoc, septadoc, veut quitter son travail pour aller en politique. Et tout le monde, c'est pourquoi vous voyez d'ailleurs, il arrive des fois, on n'arrive pas à bien voter, surtout sur une population à plus de 50% des analphabètes. On n'arrive pas à voter parce que la liste est trop longue de candidats. Vous verrez, on arrive à 1000, à 3000, à 4000 quelques candidats. Pourquoi? Parce que les budgets déjà poussent ces gens d'aller vers la politique. Je vous dis par exemple dans l'enseignement, les enseignants qui remplissent les critères normaux, qui peuvent bien former la relève, quittent l'école pour aller dans les domaines les mieux offrant, par exemple les institutions ici. Et les gens se battent. C'est pourquoi même, vous voyez, on est en train d'appliquer le népotisme. On prend ses frères, ses cousins, parce que c'est là où on gagne mieux. Mais si le budget ici qui veut scier, qui veut encore nous réduire à l'annihilation, qui veut encore nous pousser à rien devenir, et comme ça, qu'il sache que la population est en train de comprendre aujourd'hui. Et moi, je pense, le Fayoulou, tout ça là qui organise des marches C'est sur ce genre de choses qui peuvent nous accompagner. Les difficultés des enseignants, les difficultés des médecins, les difficultés des infirmiers. C'est là où ils devraient nous accompagner dans des actions de revendication. Mais vous allez voir, même eux, ils ne poussent la population à marcher que pour des choses qui doivent leur permettre d'accéder au pouvoir. Quand c'est une affaire qui va les permettre pour baliser les chemins afin qu'ils soient au pouvoir, vous les aurez nous mobiliser, nous, dans le pays, pour contribuer, pour appuyer. Et quand ils sont au pouvoir, nous sommes les premiers à être ignorés sur le terrain déjà. Ce genre de choses. Ils voient les enseignants crier nuit et jour, matin et soir. Mais ils n'accompagnent jamais ce fait-là. Donc ce budget ici que j'appelle, ce projet de budget que j'appelle antisocial. Et comme c'est déjà un projet, je pense que Tshisekedi Tshilombo, Antoine Félix, président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, il est temps maintenant que c'est encore un projet de rectifier ça. Et les députés à qui nous avons donné notre partie du corps, parce que les députés, quand nous leur votons, ils prennent notre partie du corps pour nous représenter là-bas. Il est temps qu'ils puissent refuser ou sinon inverser ce budget. Que la population, la masse populaire gagne plus pour que ces gens n'aillent plus merder les politiciens, pour que ces gens ne troublent plus l'ordre politique. Si nous nous gagnons là où nous sommes, nous n'allons pas être flattés de devenir député pour autant que je suis mieux là où je suis. Nous n'allons pas être flattés pour devenir ministre parce que je suis mieux là où je suis. Mais ce genre de budget antisocial ici, ce sont ces budgets qui constituent des évidences qui poussent les gens à faire la politique, et ils le font à tout prix, en utilisant les mensonges, l'escroquerie, tout ça qu'on sort. Une fois au pouvoir, nous sommes les premiers à être rejetés en forêt et en brousse. Voilà donc pour moi, le député, surtout celui qui porte ma voix, je lui dis ceci, d'inverser ce budget, que le peuple aujourd'hui gagne et que les institutions puisse être dans un salaire ou un amoliment, appelez ça comme vous voulez, même liste civile des chefs de l'État, qu'ils gagnent comme nous, pour que nous partageons la souffrance, nous qui sommes dans la souffrance, que nous vivions les paradis, qu'ils viennent un peu en enfer en matière de salaire, pour qu'ils sentent réellement ce que nous sommes, comment nous arrivons à survivre.
Ça, merci, c'est beaucoup.
Un budget, je ne crois pas que c'est un budget élaboré par le gouvernement dit de Warrior. Vous imaginez, $128 pour un formateur de la relève. C'est ce que nos anciens élèves qui sont devenus des décideurs veulent donner à leurs formateurs qui ont fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils trouvent ça normal? Ils ne veulent pas que nous formons bien leurs enfants ou nous formons bien les enfants de leurs électeurs ou comment? C'est ça, tout ça, c'est
merci, merci beaucoup.
C'est un paradoxe grave qui n'a jamais existé au monde. Et je méfie tout le monde. Mais ça, même le diable ne peut pas être content.
Merci beaucoup, Simon Tshilolo. Alors, Pierre Moussafiri, vous êtes avec nous, Pierre?
Pierre, bonjour à tous les invités de la radio Capi, bonjour à l'invité.
Alors, comme Simon, pensez-vous que c'est un budget, un projet de budget qui est antisocial, ou vous pensez que finalement, au fait, les gouvernements qui se sont succédés continuent à faire la promotion de cette profession des politiques à RDC, hein, car finalement, c'est là où on est mieux payé.
Merci beaucoup, JR. Moi, je dirais que d'abord, le dépôt du budget de loi 2022 à l'Assemblée nationale la semaine dernière par le Premier ministre est un droit constitutionnel. Ce qui est une bonne chose est de constater qu'il y a un peu d'augmentation par rapport aux chiffres à ceux du 2021. Ce que nous regrettons est de constater que ce budget reste jusqu'ici irréalisable en termes de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais réalisable aux grandes institutions de la République, par exemple la présidence et les deux chambres du Parlement. Sans citer que cela. À part ça, M. Juer, nous sommes dans un pays où les dirigeants nous font toujours des promesses irréalisables qui ne seront jamais réalisées. Je ne sais pas si c'est pour écouter nos réactions ou bien nous manquons de vraies réponses par rapport à ça. Comment expliquer qu'un enseignant peut continuer à toucher 118 dollars par les militaires et les policiers, n'en parlons même pas. Et qu'un député qui a aussi passé entre les mains de l'enseignant et soigné par un médecin sécurisé par ses policiers, continue à toucher 10 000 dollars. Donc, plus de 95 fois par rapport aux militaires. Et un enseignant ne sait pas, n'est-ce pas que ça, c'est de l'injustice sociale, monsieur Gilles. Et qu'est-ce qui manque au Premier ministre de réduire les émoluments de ces députés, les sénateurs, comme il nous avait promis ça, et éviter les dépenses inutiles? Comment est-ce que c'est normal qu'un président de la République voyage avec plus de 95 personnes pour aller dans une voie? N'est-ce pas que ce sont des dépenses inutiles? Est-ce que vous voyez ça normal, monsieur Gilles?
Merci beaucoup, Pierre Moussafiri. 081-890-6330 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir Patty Lendo. Patty, vous êtes avec nous de l'opposition scientifique et en même temps analyste politique. Vous avez suivi les auditeurs. La grande question aujourd'hui, on a l'impression que finalement les gouvernements qui se sont succédés, tous sont tombés dans ces réflexes de pouvoir faire la promotion de la profession politique. Parce que ce sont des institutions qui payent mieux.
Non, merci et bravo à tous les amis qui nous ont précédés. Ben, nous dirons ceci que le mal, le gouffre a été si profond et ce n'est pas du tic au tac qu'on arriverait à aplatir. Et voyez-vous l'espace. Et nous pensons que c'est déjà une bonne chose que le gouvernement ait respecté la date qui a été consacrée et que cela permet en fait au peuple d'accompagner le gouvernement et aussi d'accompagner les élus lors des débats autour de ces budgets. C'est ça en fait le renforcement, si vous voulez, de la bonne citoyenneté. Et bravo donc au gouvernement. Mais néanmoins, il faut toujours poser un pas pour qu'il y ait un deuxième. Et voyez-vous, nous avons aussi noté que le volume a sensiblement augmenté, c'est aussi une bonne chose. Mais là où nous rejoindrons facilement les amis, c'est que il se dégage même de la vie du Christ Jésus, et nous sommes un pays à 80% pré-chrétien, qu'il est toujours malheureux d'être heureux tout seul. Voyez-vous, et nous pensons que c'est vraiment le moment de le faire comprendre à tout le monde que il faudrait pas donner l'impression aux citoyens, à la masse citoyenne, que dans ces pays, il faut, pour avoir droit au chapitre, il faut être tout à fait soi-même. C'est-à-dire quoi? Chacun doit prêcher pour sa propre chapelle. Ça, je pense que c'est une pas où nous pensons que ce ne serait pas une bonne approche politique. Il va falloir que nous rééquilibrons, en fait, les différentes assignations de notre budget pour que nous arrivions à donner suffisamment de contenu à ce que disait encore le président de la République, le peuple d'abord. Et là-dessus, nous avons noté avec amertume que certains d'entre nos compatriotes ont dit, le président a dit, mais on en est où? Non, il faut se rappeler de notre histoire. Et un président disait encore que le président de la République n'était pas un magicien, seul il ne peut rien. Si le président nous a donné une éclaircie par rapport à son souci d'imposer une justice sociale, mais c'est à chacun d'entre nous de se mouvoir pour que cette justice sociale puisse avoir du contenu. Mais ça ne servira à rien que de retourner au corps du président. Vous avez dit, mais que faisons-nous pour que nous donnions du contenu à ces dictons du chef de l'État qui voudraient que le peuple soit au devant de toutes nos considérations? Donc, c'est l'exemple là. Les budgets étaient plus qu'à temps. Donc, nous avons suffisamment du temps de pouvoir écouter autour de ça et de faire en sorte que chacun dans sa sphère d'influencer les débats au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Donc là-dessus, nous pensons sincèrement qu'il y a un couac quand on nous dit l'enseignant a 118 000 francs. Et posons-nous la question. Mettons-nous à la place de l'enseignant. Comment un homme peut vivre avec 118 000 francs? Tout en reconnaissant que la situation ne serait pas sensiblement, en tout cas pendant ces premiers mandats du chef de l'État. D'autant plus que, comme nous l'avons dit au début, le fossé est trop profond. Par le passé, nous l'avons accepté. Donc, et il faudrait aussi accepter que dans les temps qui viennent, que chaque jour nous posions des pas qui vont dans le sens de réduire, si vous voulez, les écarts. Mais nous pouvons rentrer dans la tension salariale qui est démise un peu partout, de 0 à 10, la tension salariale. Si l'on donne 10 000 dollars à un député, mais posons-nous la question. Là, si nous étions élus, nous prenions part au débat institutionnel, dans l'une des chambres, nous aurions pu poser la question au ministre du budget. Sur quels sont les paramètres qui ont milité en faveur d'une enveloppe mensuelle à un député de 10 000 dollars? On est parti de quoi? La raison qu'il loue, comment il en reprend ses petites journées, il en fait quoi les 10 000 dollars? Et reposons-nous aussi la même question pour l'enseignant. Quels sont les paramètres de la raison rationnelle qui ont imposé au gouvernement d'arrêter le salaire minimal de l'enseignant à 118 000 francs, tout en sachant que tous les services que l'État nous fait payer, c'est en dollars. Aller dans des communes pour avoir un document de l'État civil, on vous dira 30 dollars. Si nous reposons, 30 dollars, ça vous fait combien? 60 000 francs congolais. Donc voilà déjà que l'enseignant ne peut pas se permettre le luxe de trouver une attestation de naissance pour son propre enfant. Ça, ce sont des paradigmes, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc nous pensons, il part dessus tout ce qu'on est en train de raconter. Le mal de ces pays, nous n'avons pas une politique salariale. Si nous en avons une, je pense que le gouvernement ou les autres structures peuvent nous en donner les grandes lignes de cette politique salariale. Il faut que nous arrêtions à mettre sur pied une politique salariale.
À un certain moment, on remet en cause les engagements pris par nos États, et notamment la RDC. La RDC qui semble ne pas être, en tout cas, à croire les projets du budget, une bonne école dans l'apprentissage de l'élaboration du budget participatif. Parce que l'idée avec la Banque mondiale, c'était d'associer la base dans l'élaboration du budget, afin de permettre à ce qu'on puisse toucher réellement le vrai problème de la population. Et depuis 5 ans maintenant,
La même chose.
Oui.
C'est pourquoi nous avons dit, le problème c'est dans les députés, dans les sénateurs. Mais quand nous suivons le débat, nous vous en disons vraiment la main dans l'âme, et bien c'est sans rire, nous en sommes déçus. Il ne faut pas que les gens croient que dans ces pays, il n'y a que de brouhaha. Il faut que les gens apprennent à comprendre que dans cette masse citoyenne, il y a des têtes qui réfléchissent. Il y a des citoyens qui sont nantis dans leur citoyenneté exemplaire. Nous vous assurons, le débat nous fait parfois gazer autrement. Comment on est arrivé à dégager 118 000 francs pour l'enseignant? Mais dans une république, il n'y a pas de question sans réponse rationnelle. Il faut qu'il y ait une réponse. On est parti de quoi pour donner à un ministre parti de quel paramètre pour donner à un député autant? De la même manière, par symétrie de la raison valable, on doit nous dire par quel mécanisme, par quel paramètre on donne au militaire le plus bas autant. Mais sur si on prend le militaire du plus bas au plus haut, mais il n'y a rien de bon. Alors il faudrait que pour le militaire, que le budget reprennent le système de, au lieu de faire, de parler de RCA, de la ratio convertie en argent, qui ne représente rien aussi, il faudrait que nous rentrions dans les redes sous Yabasoda de l'époque, dans les colis, les paniers du policier, le panier du militaire. C'est pourquoi on ne parle pas de salaire pour le militaire, on parle de solde. C'est-à-dire, on sait qui reste à leur main avec toutes les ratios qu'ils reçoivent. Mais j'apprends. Kanyamakase est en train de faire un bon travail. J'applaudis à l'idée des cantines. Mais nous devions rentrer dans la politique de rémunération du militaire. Il est prévu des colis. Il faut qu'on donne à nos militaires ne fût-ce que les savons de poussière, les savons solides. Il faut qu'on leur donne les madés soba soda. Il faut qu'on leur donne du sucre. Qu'à la fin de chaque mois, nous en avons le moyen. Si nous y mettons de la volonté et nous départons de notre égoïsme, comme nous l'avons dit au départ, il y a de la honte d'être heureux tout seul. Cette histoire où le peuple suit les politiciens, et là aussi j'interpelle le peuple, jusqu'à quand on continuera à se faire lambda auprès des politiciens? Quand le contact entre le peuple et les politiciens, c'est toujours autour de l'argent. Pesa, celui qui donne, il y a le meilleur, il y a caca, mais non! On doit, avec même l'IGF, avec la justice, on doit proscrire cette histoire tout le contact entre les politiques et les citoyens, c'est tout le retour de PESA, de donner l'argent. Ah non! Là, c'est aussi un problème. J'ai discuté avec un ami, pour ne pas le citer, l'honorable Denis Kambay. Je lui ai dit, mais honorable, mais pourquoi on doit vous donner autant comme ça? Il me dit, mais il m'appelle Debambongo. Il dit, mais Debambongo. Mais vous savez, le poids que je reçois chaque jour des demandes de la population. Mais il faut inverser. Dans quel verset de la Bible, puisque nous sommes chrétiens, dans quel verset du Coran, parce qu'il y a une minorité des musulmans, dans quel passage de la Constitution il est dit, entre le peuple et le politique, c'est toujours la tendance de donnant, donnant. Non. Il faut renverser des choses. Il faut faire en sorte que le citoyen moyen soit à même de prendre en charge la maturité de sa part. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas même dans la chaîne nationale? Telle autorité est allée dans tel coin, il a payé la maturité de toutes les femmes et le peuple applaudit ça. Mais quelle imbécilité républicaine! C'est écrit où? Un parent qui n'arrive pas à s'occuper de ses enfants, vous venez avec caméra, micro, vous dites,
oui. Est-ce que Patilendo, oui, monsieur Patilendo, est-ce qu'on ne peut pas penser à changer les paradigmes dans la préparation de l'élaboration du budget? Parce qu'on sait que les acteurs qui sont intéressés, comme je parlais tout à l'heure, du budget participatif, mais on se rend compte qu'en République démocratique du Congo, le projet de loi du budget est préparé conjointement par les ministères des Finances et du budget. Au lieu d'associer directement et les parlementaires qui viennent de vacances parlementaires et aussi la population et les autres, mais bon, finalement, c'est comme si c'est dans une pyramide, au sommet de pyramide, les gens organisent et puis ils descendent à la base.
Mais ce que vous dites est vrai. La tendance dans ces pays, c'est quoi? Celui qui a un véhicule prend celui qui n'en a pas comme étant un sous-citoyen, un sous-homme. Celui qui est au pouvoir, qui a l'imperium sur lui, mais il fait quoi tout, nanti de toute l'intelligence de la science. C'est ça le pays. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui a déjà un mandat, qui a les responsabilités régaliennes? Mais vous ne voyez pas même aux médias. On parle, l'homme qui a le mandat, il parle vraiment de coq à l'âne. Il comprend rien de ce qu'il dit, mais il est là, il s'impose. Ça, ce n'est pas normal. Nous devons arriver à nous remettre en cause. L'humilité précède la gloire. Nous avons une institution qui reçoit les assignations du budget national. L'Institut national des statistiques. Mais ce sont des experts. Et ils savent au moins la balance des prix. Et ils savent au moins beaucoup de choses que nous, que vous et moi, nous ne connaissons pas. En raison, bien sûr, de la compartimentation de la science et du savoir. Mais on n'utilise pas ces gens. Voyez-vous, on n'utilise pas ces gens. C'est ce qui est malheureux. Nous devons arriver à nous ouvrir. Dès lors que nos conseillers, bon, nous les félicitons, ils sont conseillers, mais nous savons aussi qu'il y a une dégringolade dans la qualité du conseiller dans nos institutions. Il faut voir les rendus par papier de certaines institutions. Ça nous fait actuellement penser à nos études de la maternelle, au certificat de l'école primaire. Voyez-vous un peu cela? Donc nous devons quitter cette histoire où on se croit, puisqu'on est en politique, puisqu'on a un mandat, puisqu'on a une parcelle, on maîtrise le monopole des différents de là-bas. Non.
Merci beaucoup. Merci
nous
beaucoup.
L'institution des statistiques est là. Nous avons des laboratoires, nous avons des universités. Pourquoi on ne peut pas associer des facultés de facultés de nos universités pour l'élaboration du budget, comme la Banque mondiale l'avait demandé.
Avec le budget participatif, oui.
C'est fait l'expérience avec le DCRP.
Oui. Voilà. Alors nous vous gardons en ligne, Maître Paty. On va écouter Monsieur le ministre, l'ancien ministre de la coopération, Clément Kankou. Honorable Clément Kankou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors, vous avez été membre du gouvernement. Est-ce qu'à un certain moment, dans l'élaboration du budget, on associe les besoins uniquement du ministère ou on tient compte de certaines réalités de la base?
Vous savez que chacun devrait jouer sa partition. Le gouvernement élabore le budget, il l'amène au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc au niveau du Parlement. C'est là que les représentants du peuple peuvent améliorer ce que le gouvernement a amené, peuvent tenir compte des préoccupations de la population, parce que c'est eux qui sont en contact de la population qu'elle représente, qu'il représente plutôt dans les institutions. Donc, le gouvernement fait sa partition, je dirais donc, chacun devrait jouer sa part de responsabilité, celle de venir avec les préoccupations de la population, parce qu'on est en contact de la population, et ceux du gouvernement qui gèrent au quotidien, qui peuvent vous dire que voilà, moi j'ai la capacité de trouver autant d'argent pour les recettes de l'État, je suis buté par telle difficulté, donc chacun devrait tout simplement jouer sa partition à ce niveau-là.
Voilà, parce qu'on sait que les budgets incarnent la volonté économico-financière du gouvernement à réaliser son programme d'action lors de son mandat. Mais là, on se rend compte que finalement, il y a eu majoration, on a quitté un budget du simple au double ou du double au triple, mais finalement, la question même de la population n'est pas touchée à fond.
Vous savez, la grande difficulté, c'est nous sortons quand même d'une situation de crise sanitaire qui a bouleversé l'économie mondiale, nous n'y avons pas échappé. Et nous avons été surpris d'apprendre qu'il y a cette augmentation du budget de l'État, du moins du train de vie de l'État, et alors que la population attend beaucoup plus d'action dans le social. Le gouvernement, il y a quelque temps, avait annoncé la réduction de son train de vie, ce qui a enchanté beaucoup de gens, mais nous apprenons aujourd'hui qu'il y a cette augmentation dans les grandes institutions et nous pensons que cela ne reflète pas le souci d'améliorer le social de la population. On peut améliorer les choses. Je pense que la situation, comme on l'a dit, elle est difficile pour tout le monde. Nous n'y échappons pas, mais le gouvernement pourrait peut-être mieux faire d'aller augmenter plutôt les investissements au niveau des infrastructures de base, quand vous améliorez la santé, quand vous améliorez l'éducation, la population se retrouve. Quand vous améliorez l'état des routes, la population se retrouve. Mmh. Donc je pense qu'à ce stade, le gouvernement devrait faire œuvre utile d'aller voir du côté du social, parce que la population souffre, elle souffre sérieusement, elle ne comprendrait pas qu'aujourd'hui, ceux qui sont les mieux nantis de la République, ceux qui sont les mieux servis, qui puissent vouloir augmenter leur train de vie. Nous savons qu'un fonctionnaire touche à la base peut-être 100 000 francs. Comment il comprendrait qu'aujourd'hui, un député qui touche au-delà de 4 000 dollars puisse aller encore chercher à augmenter ses émoluments? C'est tout simplement difficile à comprendre dans la situation actuelle. Mais Christian Etienne, nous pensons que le gouvernement devrait travailler pour diversifier l'économie. L'agriculture, par exemple, est le porteur de revenus. Si on peut travailler pour augmenter les revenus, pour que tout le monde soit bien loti, que ce soit du bas de l'échelle jusqu'au plus haut, je crois que tout le monde pourrait tout simplement se retrouver quand on pourra parler de ces budgets.
Alors, nous sommes déjà à la phase d'approbation de ces budgets. C'est la dernière étape sur les quatre étapes, le processus même d'élaboration de ces budgets qui passe par la phase préparatoire, la phase des restitutions et la phase d'évaluation. Mais alors, on se rend compte que finalement, comme l'ont dit certains auditeurs qui vous ont précédé, il ne faudrait pas que les députés, en tout cas s'ils ont les soucis du peuple, après avoir déjà reçu des palissades, des jeeps, alors cette fois-ci, ils ne doivent pas adopter et approuver ces budgets en des termes tels qu'il a été élaboré par le gouvernement. Est-ce que vous partagez cet avis?
Le Parlement est l'autorité budgétaire. Comme je l'ai dit, chacun joue sa partition. Le gouvernement amène un budget, il élabore un budget qu'ils amènent en fonction de la réalité. C'est eux qui gèrent le pays au quotidien. Et c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat qui aura le dernier mot. Donc je pense que l'Assemblée nationale ou le Parlement doit jouer franc jeu avec cette population qui attend d'améliorer ses conditions. Je dis encore que les changements que nous avons tous souhaités depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, aujourd'hui la population attend que les choses puissent réellement s'améliorer. On est tous contents de voir qu'au niveau de l'IGF, le travail se fait bien. Il y a un certain assainissement des finances, mais on attend mieux que ça. Je pense que le Parlement devrait faire œuvre utile aujourd'hui de geler toute augmentation à leur niveau pour pousser du côté des investissements, pour travailler du côté d'améliorer les conditions de travail des magistrats afin qu'il n'y ait pas d'impunité, de combattre la corruption pour que la population se retrouve. Ce serait aujourd'hui pas du tout, compréhensible que le gouvernement, ou du moins que l'Assemblée nationale accepte un budget qui ne reflète pas les désidératas de la population ou les attentes de la population. Ils ont cette responsabilité, ils doivent faire leur travail tel que la population attend.
Honorable Clément Kankou, merci. Et nous rappelons que vous êtes un ancien ministre du gouvernement au niveau de la coopération internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alors, on retrouve Marie-Paul. Marie-Paul, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kisangani. Alors, d'aucuns nous ont écrit en disant qu'il doit falloir qu'on change un peu de paradigme parce que les étapes suivies pour l'élaboration du budget, et aujourd'hui, en commençant par la phase préparatoire jusqu'à la phase d'approbation, nulle part la population a été impliquée directement.
Oui, écoutez, monsieur le journaliste, je pense que aussi longtemps que la gouvernance financière et la gestion saine des finances publiques en RDC constituent l'intimité et le sérieux de la RDC, et la loi des finances qui vient d'être déposée n'est qu'une nébuleuse. C'est une provision inutile pour ces pays ici, parce que vous le savez très bien ce que les éléments, la gouvernance financière, c'est parmi des éléments cruciaux dans un pays, dans une république. Alors, pour les cas peut-être de budget, de la projection de budget 2022, où on a vu quand même la hausse des chiffres, mais cette hausse-là est fondée sur des mauvaises bases. Il y a des mauvaises bases, de telles enseignes que on a tout simplement augmenté pour que les politiques se retrouvent. Et si on fait des choses de cette façon et que on fait l'augmentation sur justement pour répondre à la demande des politiques, je pense qu'on aura d'ailleurs difficile qu'on arrive à exécuter ce budget-là et que les problèmes dont le pays fait face ne seront jamais solutionnés. Parce que le budget, comme vous le savez, c'est là où les dépenses et les recettes sont indiquées. Et si dans cet appareil ou dans cet élément du pays, on ne tient pas compte des éléments cristaux, des éléments dont la population en a besoin, je pense qu'il y a un problème. En fait, il y a aussi l'intimité chronique lorsque vous analysez de manière un peu lapidaire comme nous avons suivi dans les débats. Il y a l'intimité chronique. En traduction sérieusement au problème, comme je viens de le dire, que le pays fait face. Au lieu que ce budget-là arrive à solutionner les problèmes dont la population fait face, mais le budget est venu justement répondre à la résonance financière des politiques. C'est une résonance des politiques. Nous avons ici dans notre pays, il se pose avec acuité le problème des tâches salariales. Nous avons le problème de mécanisation des nouvelles unités. Nous avons un problème d'application des SMIC. Nous avons un problème de booster l'économie. Et tous ces aspects, au lieu que le budget prend ça en charge, on songe tout simplement à augmenter les émoluments des députés, les salaires des ministres, ainsi de suite. Ça, c'est l'injustice parce que nous sommes dans un pays. Il faut que dans ce pays ici, règne la justice distributive. Ça, c'est parmi des éléments élémentaires de l'administration publique, de l'administration des finances. Mais si déjà, il n'y a pas la justice distributive, qui est bien sûr parce que si les gens sont toujours dans le ras-le-bol et qu'il n'y a pas toujours la justice, c'est que les uns sont en train de se taper des lions, les autres n'ont rien, les autres pleurent, les autres grèvent. Je pense que c'est vraiment un mauvais compromis. Nous allons faire le tour des ponts et nous allons assister au cycle infernal de sous-développement et que le pays ne va pas se décoller. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut résoudre les problèmes. Les députés, je sais que, bien qu'ils nous disent et nous montrent qu'ils sont à notre côté, non. Les députés sont entrés pour les camps. Ils sont entrés, nous savons, 2022, c'est juste une année avant les élections. Et tout le monde fait de son mieux pour qu'ils accumulent l'argent, ceux qui retournent à Kinshasa, en fait, qu'ils soient encore mandatés. C'est ce qui est vraiment des mauvais projets qui n'entrent pas dans les sociétés de la population. Voilà pourquoi moi je demande à ce qu'on institue les règles de la gouvernance et de la transparence. Et si on situe ces règnes-là, on va faire que le budget soit réellement un budget qui va répondre aux problèmes de la population au lieu que ce soit une résonance financière des politiques. Et ce qui fait même que la situation ne marche pas, tous les secteurs sont
paralysés. Merci beaucoup.
La vie ne fonctionne pas. c'est un mauvais comportement. Je pense que les députés doivent ressaisir l'occasion, en fait, de régler la situation, de tenir compte du social de la population.
Donc, comme les autres, vous proposez que ces projets de loi ne soient pas adoptés en des termes tels qu'il a été élaboré. Merci beaucoup d'avoir appelé Marie-Paul. Alors, on va prendre Alain Bolodjo. Alain, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Capi, bonjour à notre amie Marie-Paul. En tout cas, je suis très heureux de prendre part à ces débats.
Voilà. Alors, donc, je disais tout à l'heure, il y a vos prédécesseurs, l'un de vos prédécesseurs qui a fustigé la promotion de la profession des politiques aujourd'hui en RDC, au regard de ce budget qui a été élaboré, qui, en fait, alloue une part du lion, hein, aux institutions, malgré que, quelque part, il y a eu intention de pouvoir réduire sensiblement les trains de vie des institutions.
Vous savez, entre le propos ou le discours politique et la réalité sur le terrain, il y a plus d'un milliard de kilomètres. Parce que généralement, les gens ne savent pas que le budget est le reflet chiffré ou les intentions chiffrées d'un gouvernement. Si vous voulez connaître l'intentionnalité d'un gouvernement, il suffit seulement de lire le budget. Et déjà, nous avons l'habitude d'assister à des détournements, mais aussi à des dépassements budgétaires. Lorsque vous trouvez un gouvernement qui arrive à majorer toutes les charges liées à son fonctionnement, sachez-le très bien que la priorité, ce sont les institutions. Pour comprendre l'intention d'améliorer les conditions de vie, on ne va pas trop loin. On ne fait qu'analyser le budget. Nous avons toujours fustigé le fait qu'il y a plus de 60% qui sont engloutinés par les institutions. Et donc, ils sont dans ces principes-là. Lorsqu'on vous dit qu'on va réduire les trains de vie, ça, ce sont des discours politiques. Mais en réalité, sur le terrain, ils s'organisent pour augmenter davantage leur dû ou sinon leur ligne de crédit, justement pour leur permettre d'assouvir leurs appétits gloutons. Comment peut-on expliquer? Un pays qui est réputé pauvre, où la quasi-majorité des gens n'ont même pas atteint le SMIC, vous donnez à la présidente de la République $700,000 par jour. Est-ce que l'on peut imaginer la présidence à $700,000 par jour? L'Assemblée nationale à $300,000 par jour. Le Sénat, $200,000 par jour pour le fonctionnement, sans compter la rémunération. Ce qui sous-entend dans la philosophie de l'État congolais aujourd'hui, ce qui importe, c'est d'aider tous ceux qui font la politique et qui ont accédé au pouvoir de se donner une obésité financière. Alors, ce qui est surprenant, c'est que l'on pense que les parlementaires vont aller dans le sens de revoir le budget. Non, le budget a été conçu au niveau de la majorité parlementaire. Le gouvernement est l'émanation de cette majorité. Tout ce qui a été fait au niveau du gouvernement est connu par les députés. Ils vont amener juste un discours semblant pour dire à la population, non, voilà, le gouvernement avait présenté, nous avons réduit. Mais en réalité, ce n'est pas le budget qui s'exécute. Ce n'est pas le budget. Lorsqu'on a loué à M. Tshisekedi $154 millions l'an, il a atteint plus de $200 millions en termes de consommation. Ce qui sous-entend que tout ce qu'il y a comme enveloppe ne sert que ceux qui sont au pouvoir. Et pourtant, lorsqu'on vous parle du peuple d'abord, dans le budget, on voit d'abord le fonctionnaire, tous les agents publics de l'État. Et ce qui est surprenant, tous ceux qui travaillent dans l'administration publique, tous ceux qui sont dans l'armée, dans la police, ne font pas partie de ces peuples-là. Le peuple va bénéficier des revenus de l'État par quel mécanisme? Parce qu'il n'y a que la rémunération qui peut aider ceux qui travaillent pour le compte de l'État, ou sinon l'investissement. Dans l'investissement, les lignes de crédit qu'on alloue, on n'exécute jamais 50%. Dans la rémunération, on n'améliore pas les conditions de vie. Mais là où on dépense plus d'argent, c'est là où il y a les institutions. On nous vend du vent. Tous ceux qui disent qu'ils sont gouvernants, tous ceux qui nous présentent comme des gens qui veulent solutionner le problème du Congolais. Non, ils se servent de nous pour s'enrichir. Comment peut-on donner à la présidente de la République, qui n'est qu'une simple administration, $700,000 par jour? Parce que lorsque vous prenez 257 millions
257 millions, vous divisez par 365 jours, ça vous donne 700 000 dollars. Et pourtant, le dimanche, il ne travaille pas. Voyez-vous ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que tous ceux qui ont combattu dans cette ancienne opposition ne sont pas différents de ceux qui étaient hier au pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui prônent pour le peuple d'abord puissent mettre plus de moyens. Les enseignants qui vous touchent 195 000 francs, ils sont déjà en deçà du SMIG qui vous dit à ce que l'on paye à un Congolais 5 dollars par jour. Vous n'avez même pas arrivé, vous n'êtes même pas arrivé à solutionner leurs problèmes. Il y a de nouvelles unités dans l'armée, dans la police, dans la santé, dans l'éducation. Partout, il y a des gens qui ne sont pas payés et au même moment, on veut gonfler les charges, le fonctionnement au niveau des institutions. Et ce qui est encore très décevant, lorsque vous suivez les déclarations faites par M. Félix Tshisekedi devant votre confrère Christian Lusakwenu, il vous a dit il ne s'intéresse même pas de son salaire. Mais si vous suivez cette vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il vit grâce au voyage. C'est-à-dire que c'est grâce au voyage que lui s'est fait une santé financière. Et donc, lorsqu'on va gonfler les charges au niveau du fonctionnement, même si on ne change pas les salaires, il se retrouve déjà. Mais comment peut-on bâtir un État sur les inégalités? Nous savons que lorsqu'on est en gouvernance, on se bat justement pour réduire les inégalités. Comment un président de la République peut vivre 10 millions de fois plus qu'un enseignant? Comment peut-on expliquer ça? Pourquoi ne pas réduire les inégalités et permettre aux gens de vivre ne plus qu'avoir le minimum?
Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer?
À payer Moody. Pourquoi n'arrive-t-il pas à donner au dernier de Congolais ne plus que 250 dollars?
Alors, imaginez, qu'est-ce qui va se passer au Parlement? Ce budget sera-t-il voté en des termes tels qu'on l'a élaboré?
Le Parlement mécanique, on a en face des automates, des gens qui travaillent par rapport à la motivation de la GIP.
Merci.
Non, mais il n'y a pas de solution là. Il n'y a pas de solution.
Donc on peut rien espérer.
De la qualité des gens qui prétendent être les représentants du peuple.
Merci beaucoup.
Qui sont l'autorité budgétaire.
Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Nous revenons à vous, Maître Paty Lendo. C'est vrai, vous avez suivi Clément Kankou, Alain Bolodjoa, Marie-Paul, ainsi que ceux qui vous ont précédé. Alors finalement, il y a quand même ce doute de pouvoir voir les députés s'investir pour d'abord réduire leur propre train de vie et aussi chercher à améliorer les conditions de vie de la population.
Oui, ben, laissez-moi d'abord saluer le ministre Clément Kankou, un aîné pour lequel j'ai beaucoup d'égards. Mais je dirais par rapport au ministère de la coopération internationale, mais nous avons été saisis par un groupe de jeunes nouvellement engagés, qui ça fait une année je crois, et qui attendent leur mécanisation afin qu'ils soient payés, mais à qui on leur a demandé 10 dollars par personne pour avoir la carte biométrique, mais qui ne l'ont jamais reçue et qui ne sont jamais pris en charge par le budget en termes de leur salaire. Nous pensons que les autorités qui nous vont diligenter une enquête là-bas, et ces jeunes gens sont là, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des Angolais, des Rwandais ou des Tanzaniens, ce sont des Congolais. C'est inadmissible, il faut qu'on sache qui leur a demandé les 10 dollars pour la carte biométrique. Voilà ce que nous disions au départ. Tout ce que l'État fait, tout le service que l'État rend à ses administrés, c'est en termes de dollars. Mais vous demandez 10 dollars à un universitaire nouvellement engagé dans une administration publique, il va avoir ces 10 dollars où? Où va ces 10 dollars-là, en termes de billets, un billet de 10 dollars, ça va où? C'était une parenthèse qu'on a ouverte et qu'on referme rapidement. Mais bravo à tout ce qui est dit. Mais là où nous pensons qu'il faudrait rééduquer autrement le peuple, c'est que on parle de la confection participative du budget, l'élaboration participative du budget, selon les désidératas, notamment de la Banque mondiale. Mais aussi, il faudrait que nous imposions une politique participative du peuple dans la masse de l'État. Nous entendons des amis dire, est-ce que ces députés-là y vont? Mais chaque député...
Allô?
Oui, chaque député représente une portion de la population. Moi, à mon niveau, je l'ai fait. Quand j'ai appris ces dépôts du budget, j'ai vu un élu de la FUNA, l'honorable Nsingi,
Mais j'ai discuté avec lui, je lui ai donné toutes mes inquiétudes par rapport au budget. Que chacun fasse de même, au lieu de laisser les députés comme des électeurs libres. Il faut que les députés tentent
tout à fait.
Le pouvoir de leur électorat. Qu'est-ce qu'on ne fait pas?
Merci beaucoup.
Et quand on voit...
Merci beaucoup, Maître Patty Lindo, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. L'État nous fait défaut, c'est par ici que nous mettons un terme à ces programmes. On se retrouve demain dans Parole aux auditeurs. Mais d'ici là, nous attendons tous les débats autour du Parlement, autour de ces budgets et comment les députés et les sénateurs vont réagir par rapport à cette proposition qui ne prend pas, selon les intervenants de tout à l'heure, en compte les désidératas de la population. Merci beaucoup à vous tous et à demain pour un autre numéro.